On prend maintenant des nouvelles du Canada francophone avec Julien Caillouette, rédacteur en chef chez Franco-Presse. Bonjour Julien.
Bonjour Hélène.
Comme première nouvelle, la culture francophone à risque d'être sous-financée.
Le comité permanent du patrimoine canadien, Chambre des communes, étudie présentement l'état des espaces de création au Canada. Puis là, on ne parle pas juste des espaces francophones, on parle de tout en anglais aussi. La Fédération culturelle canadienne-française était au comité la semaine dernière, puis ses représentantes ont fait valoir leur crainte de voir le financement des institutions culturelles francophones être relégué au second plan. Pourquoi ils pensent ça? C'est que le Fonds du Canada pour les espaces culturels, qui est géré par Patrimoine canadien, a été modifié récemment, puis on n'accepte plus de soumission pour les infrastructures culturelles, c'est-à-dire on ne peut pas faire de demande pour la construction ou rénovation de salles de spectacle ou même des plans pour des infrastructures de ce genre-là. Cette responsabilité-là a été donnée au Fonds pour bâtir des collectivités fortes, qui est un fonds relativement renommé ou qui est nouveau. Puis dans ce fonds-là, les établissements culturels se retrouvent en compétition avec toutes sortes d'autres infrastructures, incluant, par exemple, des ponts. C'est pas que les ponts sont moins importants que la culture ou vice-versa, ce que nous dit la Fédération, bien au contraire, mais il n'y a aucune instruction sur le partage des fonds. Ce que demande la Fédération, c'est non seulement de réserver une partie de ce fonds-là pour les infrastructures culturelles, mais aussi de réserver une autre partie pour celles qui sont destinées aux minorités linguistiques.
Bon, alors ça prend des ponts culturels.
Oui, c'est ça, exactement.
L'Acadie en quête de son autonomie institutionnelle, on en parle dans l'Acadie Nouvelle.
Oui, je l'ai mentionné, que les états généraux sur l'Acadie s'en venaient, puis ça a eu lieu cette fin de semaine à Edmundston. Puis la rencontre a été préparée par un groupe d'Acadiens, là, mené entre autres par le sociologue Joseph-Yvon Thériault, un groupe qui s'inquiète un peu de la situation de l'Acadie et de la langue française au Nouveau-Brunswick et dans les Maritimes. Le constat principal de la rencontre, c'est que l'Acadie du Nouveau-Brunswick doit viser l'autonomie institutionnelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, c'est tout simplement le droit et le besoin de contrôler tous les éléments qui peuvent faire partie de la culture acadienne, soit du principe de vivre en français ou tout ce qui assure l'avenir de l'Acadie. On peut prendre en exemple les écoles qui sont déjà sous le contrôle des minorités linguistiques. Le gouvernement donne l'argent au conseil scolaire francophone, puis eux décident de la façon de s'en servir. Donc, on donne cet exemple-là. En exemple, on donne aussi, on pourrait ajouter ce principe-là, cette façon de fonctionner-là, pour les droits linguistiques, pour la petite enfance, pour l'économie, la culture et même la santé. Ce qu'on se donne après les États généraux, on s'est donné 10 ans pour faire avancer cette question-là de l'autonomie institutionnelle. Comme le dit le nouveau président de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, Gérald Arsenault, ça va être un travail de longue haleine, sans compter que tous les détails qu'il y a à régler pour savoir ce que ça inclut exactement, cette idée d'autonomie institutionnelle.
Vous avez commencé la chronique avec la culture francophone à risque d'être sous-financée et maintenant vous parlez de l'Université de Sudbury qui est à haut risque de perdre des étudiants.
Oui, parce que les étudiants de cette université-là se retrouvent dans une drôle de situation où il est possible qu'ils ne puissent pas faire demande au régime d'aide financière étudiant de l'Ontario pour leur étude l'année prochaine. Même si l'université reçoit du financement de la province puis qu'elle est mentionnée dans le budget qui a été présenté ce printemps, l'Université de Sudbury n'a pas été inscrite dans la liste des établissements admissibles au régime. C'était pas un problème pour la première année parce que l'université avait décidé de donner des bourses qui, dans le fond, payaient pour les frais d'études des étudiants pour la première année, sa première année d'ouverture d'ailleurs aussi, mais n'a pas l'intention nécessairement de le faire pour les prochaines années. Et puis si ce n'est pas réglé, donc l'université pourrait perdre des inscriptions à cause des étudiants qui ne peuvent pas se permettre de s'inscrire sans une aide financière du gouvernement. Du côté des associations francophones, mais aussi bien l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario que la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne dénoncent la situation. On ne comprend pas pourquoi les étudiants sont inadmissibles puisque le gouvernement a accepté de financer l'université. Puis du côté du gouvernement, on est conscient du problème, on dit vouloir tenter de le régler rapidement pour que les étudiants puissent faire une demande pour l'année prochaine.
On le souhaite. L'enseignement post-secondaire en français prend un nouveau tournant dans le Nord.
Oui, on reste dans l'enseignement, mais avec peut-être une meilleure nouvelle. On a une meilleure idée de la forme que pourrait prendre le projet d'établissement postsecondaire pour les francophones du Nord canadien. Le Collège nordique au territoire du Nord-Ouest est le seul établissement postsecondaire francophone au nord pour les territoires. Puis, on voulait voir comment il pourrait étendre son offre de services au Nunavut et au Yukon. Dans l'état actuel des discussions qui ont avancé la semaine dernière, ce qu'ils ont décidé, c'est d'utiliser vraiment le Collège nordique comme base, puis d'ouvrir les services et le conseil d'administration pour mieux prendre en compte et mieux représenter les besoins des francophones des deux autres territoires. Ça va amener le Collège à se transformer un peu, puis intégrer, entre autres, les départements de formation qui sont déjà présents dans les associations francophones du Nunavut et du Yukon. Puis on espère aussi avoir des campus dans les deux autres territoires, là, un endroit physique, que ce ne soit pas seulement des cours offerts de façon virtuelle. C'est donc juste une autre étape de franchie là, dans la réflexion. Là. Maintenant, ce qu'on dit, c'est que les trois organismes qui participent à cette réflexion-là doivent aller voir les gouvernements de leur territoire pour voir s'il y a une ouverture pour la transformation.
Et pour conclure, vous nous parlez de la patente qui pourrait être reconnue comme un événement d'importance historique nationale. Qu'est-ce que cette patente?
Oui, si vous avez besoin d'un aide-mémoire. D'un aide-mémoire, la patente, c'était le nom utilisé pour parler de l'ordre de Jacques Cartier sans le nommer. L'ordre de Jacques Cartier, c'est un ordre secret qui a été créé en 1926. Puis c'était pour les francophones, pour que les francophones du Canada gagnent un peu de pouvoir parce que les anglophones contrôlaient pas mal tout à cette époque-là, puis les francophones étaient mis de côté. Ça incluait aussi bien les Québécois que les francophones du reste du pays. Là, il n'y avait pas de frontières du moins au début, dans cette organisation-là. Apparemment, les premières rencontres des premiers membres de l'Ordre de Jacques Cartier ont eu lieu dans le presbytère de l'église Saint-Charles-Borromée, dans le quartier Vanier, juste à côté du centre-ville d'Ottawa. Il y a une résidente de Vanier, Joanne Leroux, qui a rédigé une demande à Parc Canada pour que la patente soit reconnue comme un événement historique national. Puis avec son but, c'est d'avoir une plaque proche de l'église, du presbytère, qui parle de l'histoire de l'ordre de Jacques Cartier. Parce qu'elle était un peu surprise que ça ne soit pas le cas, qu'il n'y a pas déjà une reconnaissance nationale.
Bien oui,
même
on
si,
la comprend.
Mais oui, mais c'est ça. Puis même si l'ordre a été démantelé en 1965, c'était un ordre secret, mais bon, son existence n'est plus secrète.
Non.
Puis l'influence qu'il a eue non plus, ça l'est plus. Fait que faut juste attendre que Parc Canada prenne sa décision, ce qui peut prendre quelques mois ou quelques années. Il va falloir être patient.
Oui. Alors, sur cette patente, je vous dis merci. Et puis, bonne semaine. On se retrouve non pas la semaine prochaine, mais le 1er juillet. À bientôt, Julien.
Je vous attendrai patiemment. Bonne
D'accord.
semaine.
On y compte bien.